Radio Okapi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal du matin dont voici les titres. Le nouveau patron de la MONUSCO reçu hier par la MINETA des Affaires étrangères. Au menu de leurs échanges, le renforcement de la coopération entre la RDC et les Nations Unies, ainsi que sur la nécessité d'assurer une coordination étroite entre les initiatives diplomatiques, les mécanismes régionaux et les réalités humanitaires et sécuritaires sur le terrain. Plus de 70% des enfants vivent dans des ménages pauvres en RDC. Ces chiffres sont présentés ce mardi lors d'un atelier organisé à Kinshasa par le ministère du Plan avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF. Les négociations entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23 ont repris ce lundi 13 avril à Genève en Suisse. Il s'agit du 9e round de discussions entre les deux parties après plusieurs semaines d'arrêt. Cette thématique était au centre des échanges entre les participants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi. Vous les suivrez tour à tour au micro de Guy Matetiongo. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, James Swan, a été reçu ce mardi 14 avril en audience par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies à un moment où les efforts conjoints demeurent essentiels pour la paix, la stabilité et la sécurité dans les pays. Jude Mister Bilanda pour les détails.
Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la RDC et les Nations Unies ainsi que sur la nécessité d'assurer une coordination étroite entre les initiatives diplomatiques, les mécanismes régionaux et les réalités humanitaires et sécuritaires sur le terrain. À cette occasion, James Swan a exprimé son honneur de retrouver la RDC et a salué l'engagement diplomatique du pays ainsi que les efforts déployés pour consolider sa position sur la scène régionale et internationale. Le chef de la MONUSCO a également réaffirmé la disponibilité de la mission à poursuivre une collaboration étroite avec le ministère des Affaires étrangères dans un esprit de confiance, de respect mutuel et de partenariat constructif. Les deux parties ont souligné l'importance de maintenir une approche cohérente et coordonnées afin de répondre efficacement aux défis sécuritaires et humanitaires et de soutenir les efforts en cours en faveur d'une paix durable en République démocratique du Congo.
Le nouveau directeur de l'UNOPS pour l'Afrique qui a pris ses fonctions cette année séjourne en RDC depuis le week-end passé. Sanjay Mathur dit être venu en RDC dans le cadre de la tournée générale pour mieux connaître la situation dans la région sous sa direction. Avec les autorités de la RDC, il échange pour des finir les besoins et priorités d'action. Toutefois, le plaidoyer de l'UNOPS pour la RDC gère en ce moment un programme de 60 millions de dollars pour les routes et infrastructures dans la partie est du pays. Programme financé par la coopération allemande GIZ. Sanjay Mathur s'est confié à Donama Dimbambaya.
Nous avons travaillé avec beaucoup de ministères dans ce pays et je vois que nous pouvons faire plus. Ce que nous avons discuté, c'est un, de mieux nous connaître entre nous et identifier ensemble là où on peut apporter vraiment des appuis concrets. Nous avons l'année dernière signé avec la coopération allemande un programme pour l'est de ce pays, pour l'appui dans le secteur des routes, par exemple, et des infrastructures. Nous avons signé environ 61 millions de dollars et c'est un programme de 5 ans. Je vous donne juste un aperçu qui va vraiment appuyer sur les infrastructures qui sont nécessitées dans la région et qui vont aussi servir pour la paix.
Le système des Nations Unies toujours, processus du deuxième recensement général de la population et de l'habitant en République démocratique du Congo. Devant les sénateurs, c'est lundi, le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, Alain Akpadji, appelle à une mobilisation générale pour garantir la réussite de cette opération prévue incessamment. Soutenant pleinement ce processus, l'agence onusienne rappelle que les recensements constituent un outil essentiel pour les développement. Il permet de mieux planifier les politiques publiques, d'orienter les investissements et de répondre efficacement aux besoins des populations. On écoute Alain Akpadji dans des propos recueillis par Gas Amzati.
Vous êtes les représentants directe et les voix des provinces et des territoires. La réussite du SGPA 2 nécessite l'adhésion totale de toutes les parties prenantes et de toute la population de la RDC. Nous vous sollicitons donc pour devenir des ambassadeurs et les champions du recensement dans vos circonscriptions respectives. Vos implications appellent donc à, d'abord, mener le plaidoyer territorial. Vous avez une légitimité unique pour convaincre les leaders coutumiers et les communautés de l'importance du recensement en tant qu'instrument de bien-être public et national. Aussi, la création de confiance, votre engagement à mobiliser la population et à contrer la désinformation est essentiel pour garantir la couverture totale et universelle des opérations, y compris dans les zones les plus reculées ou celles qui sont touchées par les conflits. Nous vous demandons d'utiliser votre influence politique et votre rôle des élus du peuple à l'instar des députés pour garantir que, d'abord, le financement national promis soit sécurisé et décaissé de manière opportune.
Au moins 74% des enfants vivent dans des ménages pauvres au sens monétaire en République démocratique du Congo. Ces chiffres ressortent du rapport de validation technique d'études sur la pauvreté monétaire et les privations multidimensionnelles des enfants MODA présenté ce mardi lors d'un atelier organisé à Kinshasa par le ministère du Plan avec l'appui des fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Ces enfants sont confrontés à de multiples préventions fondamentales, notamment un accès insuffisant aux soins de santé, une alimentation inadéquate, une éducation de qualité limitée et un manque d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi que l'absence de protection juridique élémentaire. Pour faire face à cette situation, l'UNICEF affirme accompagner le gouvernement congolais à travers l'approche MODA, une méthodologie centrée sur l'enfant et fondée sur les droits humains. La représentante adjointe de l'UNICEF en RDC appelle à accorder une attention particulière aux défis qui affectent les enfants à travers les pays. Mariam Silla.
Ensemble, engageons-nous résolument à faire en sorte que chaque enfant en RDC puisse survivre, s'épanouir et réaliser pleinement son potentiel.
Pour sa part, le secrétaire général au plan a réaffirmé la volonté du gouvernement congolais de placer la protection des enfants au cœur des politiques publiques en vue d'un développement durable et inclusif. Daniel Epembe.
Madame Judith Soumino Toulouka place la protection et l'épanouissement de l'enfant au cœur de l'action gouvernementale.
Menée à l'échelle nationale, cette étude prend en compte les enfants âgés de 6 mois à 17 ans, offrant ainsi une photographie globale de leurs conditions de vie en RDC.
Pendant ces temps à Bunia, environ 70% des déplacés du site de Kingonze survivent grâce à des petites activités génératrices de revenus. Agriculture, petit commerce, travaux journaliers, etc. Ces initiatives leur permettent de subvenir tant mieux que mal aux besoins de leur famille. Mais malgré ces efforts, leurs conditions de vie restent très précaires et des milliers d'enfants ne vont pas à l'école faute de moyens. Le point avec Laetitia Viakuno.
Installés sur les sites depuis 2017, ces déplacés ont fui leur village d'origine dans le territoire de Ndjougou à la suite des exactions de groupes armés. Pendant plusieurs années, ils bénéficiaient d'une assistance alimentaire régulière fournie par les organisations humanitaires. Mais depuis près de 3 ans, cette aide est devenue rare, voire irrégulière, en raison de la crise humanitaire mondiale. Pour faire face, environ 70% des déplacés du site de Kigonze développent des stratégies de survie. Certains se lancent dans les petits commerces, notamment la vente de roseaux, de bois de chauffage, d'autres cultivent des petits champs aux alentours ou effectuent des travaux journaliers dans les quartiers voisins en échange d'argent ou de vivres. Georgine Nzoussi.
Moi, au quotidien, je vends du charbon. Nous sommes 15 dans notre abri. Lorsqu'un enfant mange juste un morceau de patates douces accompagné d'un peu d'eau, cela suffit pour la journée.
Malgré ses efforts, ses activités restent insuffisantes pour couvrir les besoins essentiels des ménages, notamment le soin de santé et la scolarisation des enfants. Dieudonné Mateso, président du comité de gestion des plaintes.
Lorsqu'il n'y a pas d'assistance, il n'y a rien. Cela oblige les déplacés à se débrouiller. Nous les sensibilisons à travailler et à abandonner l'habitude de quémander.
Bomba.
Bounia, Laetitia Viacuno, Radio Okapi.
Au nord Kivu, la crise humanitaire s'aggrave dans les territoires des Masisi suite aux affrontements récurrents opposant la FCM-23 au FARDC et aux combattants Wazalendo. Près d'une dizaine de villages sont presque entièrement vidés de leurs habitants depuis le 27 mars dernier. Les groupements Doufamandou et Nyamaboko sont particulièrement touchés. Une dizaine de jours après ces déplacements massifs, la société civile Force Vive du secteur des Katoy tire la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire jugée alarmante de ces personnes déplacées. Les détails avec Bernadette Nyangui.
Dans un bref rapport transmis ce mardi à Radio Kapi, la société civile Force Vive du secteur de Katoy fait état d'au moins 5 villages presque abandonnés dans le groupement de Fomando 2 et de 2 autres dans le groupement de Nyamaboko 2 dans le même secteur. Les habitants ont fui le combat survenu entre le 27 mars et le 3 avril dernier, certains se réfugiant dans la brousse, d'autres dans le groupement de Walo Uroba en territoire de Walikale, où ils sont accueillis dans des écoles et des églises. Leurs conditions de vie sont jugées très précaires, selon cette source, évoquant un manque criant de nourriture, de soins de santé et d'abri adéquats. Par ailleurs, entre le 9 et le 10 avril dernier, plusieurs autres villages des groupements de Fomando 1er au nord Kivu et Ziral au sud Kivu ont connu le même sort à la suite des combats survenus dans la zone de Tushunguti. Ces déplacés ont eux aussi trouvé refuge dans le groupement de Walo Luanda en territoire de Walikale. La société civile lance un appel à l'aide, soulignant que parmi les déplacés figurent de nombreux enfants et personnes âgées déjà affectées par la faim et diverses maladies dans leur lieu de refuge.
La République démocratique du Congo a franchi un cap historique dans sa trajectoire économique. Lors d'une conférence de presse tenue ce lundi à Kinshasa, le ministre des Finances Doudou Fouamba a dévoilé le contour de la toute première émission d'eurobond du pays, baptisée Mbote. C'est elle qui a permis de lever 1,25 milliard de dollars sur les marchés internationaux. Mais c'est quoi les eurobonds? Tentative de réponse avec vous, Alain Irung.
Pour l'économiste Emmanuel Mukundi, les eurobonds sont une dette que la RDC a contractée.
Vous constaterez que la République démocratique du Congo s'est endettée sur le marché européen, mais la dette est libellée en monnaie américaine.
Il demande cependant au gouvernement de préciser le taux de remboursement de cette dette qui risque de peser sur les générations futures. Professeur Emmanuel Mukundi.
Le gouvernement devait nous dire, nous la population, quel est le taux de remboursement. Parce que si c'est à des taux exorbitants, rembourser le principal et les intérêts, ça serait un problème pour la nation congolaise.
Mais pourquoi la RDC célèbre ces 1,25 milliards de dollars? Doudou Fouamba, ministre des Finances, explique.
Nous célébrons cela pourquoi? Parce que nous venons de bâtir et de construire une courbe des taux pour notre économie. Avant les rebonds ne sera pas après les rebonds en termes des coûts de crédit pour l'État lui-même.
Le ministre des Finances a précisé que ces ressources seront orientées vers des projets structurants, notamment la modernisation des infrastructures, énergie, mobilité urbaine et appui au développement économique au bénéfice direct de la population. Il a également relevé que les conditions obtenues par la RDC, notamment le taux d'emprunt, restent compétitives.
À Benonokivu, les effets de la déforestation ne sont plus invisibles. Pluie violente, chaleur accrue, sol fragilisé, le paysage change et le quotidien des habitants aussi. Suite de notre série de reportages consacrés à la fabrication du charbon de bois à Beni et ses conséquences sur l'environnement. Dans ce troisième numéro, focus sur les impacts de cette activité sur l'environnement. Reportage Martial Papimoukeba.
La coupe des arbres pour produire du charbon laisse déjà des traces visibles à Beni. Même s'il est difficile de chiffrer le nombre d'arbres abattis, les conséquences, elles, sont bien réelles. Jean-Paul Kapitula, responsable local de la protection civile, alerte.
Combien d'arbres ont été abattus, à combien de temps, pour essayer d'estimer des problèmes liés à la déforestation? Des effets les plus néfastes qui continuent à se manifester serait lié à ça, notamment les inondations, les vagues violentes, tout ce qu'il y a comme éboulement ou érosion. Lorsque nous déboisons, lorsque nous faisons la déforestation, nous devons nous attendre aux problèmes que nous créons au niveau de l'environnement.
Aujourd'hui, à chaque pluie ou presque, des cas d'inondations, de destruction des maisons et des vents violents sont signalés dans la région de Beni. Une situation de plus en plus préoccupante pour les populations locales. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Face à cette situation, des solutions existent, mais elles restent encore peu appliquées. Dans le prochain et dernier numéro de notre série sur la fabrication du charbon de bois à Beni au Nord Kivu et ses conséquences sur l'environnement, nous verrons comment protéger les forêts et réduire la dépendance au charbon de bois.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient. Au moins 1639 personnes ont été exécutées en Iran en 2025, soit environ 5 personnes par jour. Les ONG Ensemble contre la peine de mort et Iran Human Rights publient leur rapport annuel sur le sujet, alors que l'année 2026 qui vient de commencer s'annonce encore plus critique.
L'invité.
Les négociations entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'FC-M23 ont repris ce lundi 13 avril à Genève en Suisse. Il s'agit du 9e round des discussions entre les deux parties après plusieurs semaines d'arrêt. La reprise de ces pourparlers a été au centre des échanges entre les participants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi. On les écoute au micro de Guy Mathieu Tsongo.
Juvenal Munubu Mubi, vous êtes avocat et cadre de l'HDC, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Vous êtes député national honoraire et analyste des question de l'Est de la RDC. Que pensez-vous de la reprise des négociations entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'FC-M23?
Il était important de conclure ces pourparlers parce que le principe est simple. Quand on a commencé des discussions sur une question importante comme la question de la paix, eh bien, il fallait conclure. Et là, ça me permet de rappeler que le processus de paix à l'est du Congo a deux volets. Il y a le volet externe, c'est-à-dire le volet régional, qui est porté par Washington, l'accord de Washington. Et puis, il y a le volet interne, on peut dire ça, qui est Doha, c'est-à-dire des discussions directes entre le gouvernement de la RDC et l'AFC-M23. Parce que les volets régionaux, les volets externes, c'est entre le gouvernement de la RDC et le Rwanda. Et vous avez vu que par rapport au volet régional ou au volet externe, on a plus évolué sur des questions économiques. En fait, les deux processus sont liés. On ne peut pas uniquement continuer à discuter sur les 6 autres protocoles. Il y a les mécanismes de libération des détenus qui a été signé comme protocole, mais aucun détenu n'a été libéré. Et puis le cessez-le-feu qui a été signé, mécanisme, j'ai dit, mais aucun cessez-le-feu n'est observé sur terrain. Et après les deux protocoles, il y a 6 autres, hein, notamment l'accès humanitaire. Hein. Il y a par exemple la question de l'aéroport de Goma, il faut qu'on en discute en Suisse. C'est une urgence. La question de restauration de l'autorité de l'État, cela est très important. La question des gouvernances participatives, pour la question de la restauration de l'autorité de l'État, il y a tout ça, les banques qui doivent ouvrir, et il y a pas mal de questions, libre circulation des personnes et des biens, les avocats, les magistrats qui doivent bien faire leur travail, etc. Et puis, il y a un autre protocole qui doit être négocié là-bas, c'est le DDR, la question du DDR, on fait quoi avec le DDR? Il y a une autre question là-bas, identité citoyenne, mais il faut qu'on précise ce que ça veut dire, identité citoyenne.
Merci. Bob Kabamba, vous êtes politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Quelle est votre lecture de la reprise des négociations entre les gouvernements congolais et l'AFC-M23?
Merci beaucoup pour la question. Sur le 9 round, on peut dire qu'on est pratiquement nulle part. Parce que depuis que ça a commencé, on n'a pas du tout avancé. Et tout ce qui a été signé de différents niveaux, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet. Ces différentes signatures. Et donc, on tourne en rond, on gagne du temps parce que c'est le procédé qui a été privilégié aussi bien par Kinshasa que par Goma.
Et si, comme vous le dites, les deux parties sont en train de jouer sur les temps, ça peut être avec quel objectif, professeur Bob Kabamba?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps, ça veut dire quoi? Au niveau de Kinshasa, nous sommes en 2026. En étant en 2026, nous devons avoir des élections en 2028 pour respecter, on va dire, le délai constitutionnel. Or, par rapport à la feuille de route qui a été publiée par la CENI elle-même, et lorsque j'ai lu le communiqué venant de la CENI elle-même, en fonction de ce calendrier, en fonction du retard qui a été constaté, donc on peut mettre une croix sur 2028. Alors, si on met une croix sur 2028, il est impératif d'avoir un motif, une justification par rapport à la population, pour l'expliquer pourquoi on n'a pas respecté le délai de 2028. Alors, la réponse sera très simple, parce que tout simplement, il y a le problème de l'Est avec les discussions qui s'ensuivent. Alors, du côté de la rébellion aujourd'hui contrôle plus ou moins entre 50 et 60 000 km² de superficie à l'Est du Congo. Et ils gèrent plus ou moins entre 10 000 et 12 millions d'habitants dans cette surface. Donc ils sont dans une dynamique d'étatisation de la zone qui est contrôlée. Quand on est dans une zone d'étatisation, vous avez besoin de temps pour consolider votre étatisation.
Merci. Placide Nzilamba, vous êtes secrétaire technique de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Comment vous réagissez à la reprise des négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC-M23?
Pour nous, d'abord, c'est une surprise. Parce que tout simplement, on pensait que ça, on y a mis fin. Imaginez-vous, on nous dit qu'on est au 9e
round.
On dirait que c'est un jeu de boxe ou c'est quoi. Donc, c'est étonnant de voir un problème qui dure 30 ans aujourd'hui, mais les gens spéculent sur la solution. Et ce genre de tâtonnement dans la recherche de la solution, nous pensons que ce sont des erreurs fatales qui jettent déjà le discrédit sur ce qui s'est fait. Est-ce qu'on statue sur les vrais problèmes? Ou qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on comprend qu'il y a une population qui est meurtrie du jour au jour? Est-ce qu'on a l'intention de faire la paix? Ce sont ces questionnements devant lesquels nous sommes et nous nous disons, au lieu de gaspiller tout le fond dans ça, je crois qu'il faut imaginer d'autres solutions en dehors de cela, parce que c'est une distraction, ça je vous dis.
Quelles sont les solutions qu'il faut imaginer?
Non, il faut bien étudier les intérêts et savoir les répartir.
Voilà qui met fin à cette édition du Journal du Matin, préparée pour vous par Jude Mystère Bilan d'Ankoumar et mise en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.